bonsoir et bienvenue dans Le Grain à Moudre d'été. Très heureux de vous accompagner pendant deux semaines jusqu'à la rentrée. Le sujet ce soir, qui pour défendre les droits de l'homme ? Les exemples sont récents et nombreux. Chaque mois, chaque semaine, chaque jour, les droits de l'homme sont bafoués dans le monde. Des militantes féministes sont arrêtées et incarcérées en Arabie Saoudite. Des prisonniers sont torturés en Syrie depuis plusieurs années. Un prisonnier en grève de la faim, cela fera trois mois demain, est méprisé par les autorités en Russie. Oleg Sentsov, cinéaste ukrainien, aujourd'hui entre la vie et la mort, selon son avocat. Face à ces actes, certains s'indignent et se lèvent, agissent. Le Canada a dénoncé les arrestations en Arabie Saoudite, non sans dommage d'ailleurs. Un professeur des Beaux-Arts a témoigné et dessiné l'horreur des prisons syriennes, c'est à voir dans Libération aujourd'hui. Et en France, des dizaines de personnalités demandent la libération d'Oleg Sentsov. Elles le disent dans une tribune publiée par le journal Le Monde dans sa dernière édition. Des réactions à l'efficacité discutable et des profils bien différents. Une liste évidemment non exhaustive, d'où cette question : qui pour défendre les droits de l'homme ? Pour répondre à cette question, quatre invités ce soir. Francis Perrin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vice-président d'Amnesty International, l'une des principales ONG de défense des droits de l'homme. Emmanuel Decaux, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur émérite à Paris 2, Panthéon-Assas, membre du comité des disparitions forcées, un comité que vous avez présidé, l'un des organes chargés de la surveillance des droits humains à l'ONU. Vous êtes aussi l'auteur, entre autres, d'un ouvrage intitulé « Les grands textes internationaux des droits de l'homme » publié par la Documentation française. À vos côtés, Nicolas Hervieux, bonsoir.
Bonsoir.
Chargé d'enseignement à Sciences Po et à l'Université d'Evry, collaborateur également du cabinet Spinozzi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Vous connaissez particulièrement bien le droit public et européen des libertés. Et par téléphone, Marc Pierini, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien ambassadeur de l'Union européenne en Turquie, en Syrie notamment, chercheur également auprès de Carnegie Europe, un centre de recherche basé à Bruxelles. Pour commencer ce débat, messieurs, un point d'abord sur la situation des droits de l'homme dans le monde. Je me tourne vers vous, Francis Perrin. Il y a eu une dramatique régression des droits humains dans le monde en 2017, l'an dernier, c'est ce que disait votre dernier rapport à Amnesty International. Et en 2018, près de 8 mois après le début de l'année, régression encore ou amélioration?
Régression sans doute, ce n'est pas, le mouvement est loin d'être terminé malheureusement. Nous sommes dans un monde qui est traversé par des crises d'une ampleur exceptionnelle avec des conséquences tragiques pour un grand nombre de personnes. Nous pensons évidemment à la Syrie, nous pensons à l'Irak, au Yémen, à l'Afghanistan, au Soudan du Sud, au Myanmar, Birmanie, pour citer, sans être évidemment exhaustif. C'est un premier élément. Nous avons par ailleurs, sur cette même planète, des injustices sociales considérables, énormément de pauvreté. Et puis nous avons aussi beaucoup d'hostilité face à des personnes pourtant extrêmement vulnérables et qui ont besoin de beaucoup d'aide, telles que les migrants et les réfugiés. Cette hostilité n'est pas seulement uniquement dans les discours, elle est aussi malheureusement dans les actes. Pensons au cas de la Hongrie qui dit « nous ne voulons pas accueillir des réfugiés musulmans, on veut seulement des réfugiés chrétiens ». Évidemment, c'est un peu curieux au regard du droit international. Face à ce constat extrêmement sombre, même s'il n'y a pas que des choses sombres, il faut le rappeler.
On y viendra aussi.
On y viendra, bien sûr. Beaucoup d'États abdiquent leur responsabilité, qui est de contribuer justement à une amélioration de la situation. Ils ne veulent pas jouer un rôle vraiment positif, actif, dans le domaine de la défense, de la protection des droits humains. Et souvent, ils se livrent justement à ces reculs, ces régressions que nous évoquions depuis dans la période récente. Ils tentent de dissimuler cette incapacité, cette impuissance, ces stratégies politiques, pas du tout à la hauteur des enjeux et de leurs responsabilités, en diffusant de fausses nouvelles, en manipulant l'opinion et en essayant de faire taire des voix dissidentes, des voix qui peuvent être celles de défenseurs des droits de l'homme. Pensons à la mort du prix Nobel Liu Xiaobo en Chine, mort en détention. Pensons à, vous l'avez rappelé, à la détention d'Oleg Sentsov en Russie et beaucoup d'autres. Et il s'attaque à la société civile, aux défenseurs des droits de l'homme, aux organisations non gouvernementales et à des institutions dont le but est justement de limiter l'arbitraire de certains pouvoirs, dont notamment le pouvoir judiciaire. Et là encore, il y a plein d'exemples. Donc c'est un constat effectivement assez sombre que nous avons fait dans ce dernier rapport, tout en notant, et c'est important de le souligner, et je sais que nous allons y revenir dans cette émission, que ce constat très sombre conduit aussi à un développement des mobilisations d'une partie de la société civile et des organisations non gouvernementales, et que le monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas uniquement du noir et du sombre, il y a aussi heureusement des victoires liées à ces mobilisations, de plus en plus à travers Internet, les réseaux sociaux, mais pas uniquement, des mobilisations également classiques. Donc c'est un petit peu ça, ce paysage contrasté sur la période 2017-2018 que nous avons évoqué dans le dernier rapport annuel de notre mouvement auquel vous avez fait référence.
Constat sombre donc dressé par Amnesty International. On suivra évidemment la publication de votre prochain rapport au début de l'an prochain, en 2019. Pour bien poser encore une fois les termes de ce débat, comment définir les droits de l'homme? Pour bien comprendre aussi comment on peut réagir quand des droits de l'homme ne sont pas respectés et sont violés, Emmanuel Decaux.
Oui, alors je crois qu'il faut souligner que les droits de l'homme, c'est une priorité de la communauté internationale. C'est un des piliers de la Charte des Nations Unies depuis 1945, ce qui n'était pas le cas auparavant. Autrement dit, ça veut dire que tous les États, mais aussi tous les individus, tous les groupes, sont concernés par des violations des droits de l'homme qui se passent dans un autre pays et également dans leur pays. Et donc, dans ce cadre, il y a tout un système qui a été élaboré, qui est un système ambigu, parce que c'est un système à la fois politique et juridique. C'est un système politique, parce que tous les organes des Nations Unies sont composés, pour l'essentiel, par des États. Le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale...
Qui eux-mêmes, parfois, ne respectent pas les droits de l'homme, ou certains textes internationaux.
Voilà. Et en même temps, ce sont ces États qui créent le droit international. Donc ils le violent, mais ils créent le droit en ratifiant des traités et en s'obligeant à respecter des traités sur les droits de l'homme.
Nicolas Hervieux.
À ce niveau international, évidemment, répond le niveau interne. Et précisément, les textes internationaux qui semblent désincarnés, qui sont souvent mobilisés avant d'être chiffonnés, ils peuvent être repris à leur compte par les citoyens. On parlait de mobilisation locale au niveau national. Mais ce qui est vraiment le plus essentiel pour définir les droits de l'homme aujourd'hui, c'est que c'est un point de référence. Un point de référence idéologique, moral,
même universel.
Et universel. Même un État qui viole les droits de l'homme. Toute institution qui les froisse a conscience de les froisser. Et peut, à cet égard, à susciter des réactions d'individus. Bien sûr que les violations des droits de l'homme sont souvent signe d'inquiétude, mais le simple fait qu'on les viole est en soi remarqué et est en soi susceptible de sanctions. Et la mobilisation des citoyens par des pétitions, sous l'égide notamment d'Amnesty International, ou, et c'est un point très important, le fait de mobiliser les voies de recours qui existent au plan international, au plan régional, ainsi qu'au plan interne, est un instrument très fort parfois pour faire plier les États, que ce soit sur le plan de la symbolique, on parle beaucoup au niveau international de ce qu'on appelle le naming and shaming, nommer et faire honte. Le simple fait de dénoncer des violations des droits de l'homme déjà est en soi un acte fort. Et ensuite les faire sanctionner en mobilisant des juges et à cet égard faire progresser le droit. Il y a donc plusieurs voies disponibles pour faire constater les violations des droits de l'homme, les faire cesser et ainsi aussi tenir compte des contraintes qui pèsent sur chacun des États.
On va revenir un peu plus dans le détail sur ce que vous avez déjà posé. Je me tourne vers vous maintenant, Marc Pierini. Vous avez écouté vos camarades de débat ce soir, évoquer notamment ce naming et shaming, comme vient de le faire Nicolas Hervieux, ou certaines prises de position de certains États pour essayer de faire bouger d'autres États. On pense notamment au Canada, qui récemment a dénoncé les actions menées par l'Arabie Saoudite, qui a eu d'ailleurs une réaction très, très violente, un coup en toute relation économique avec Ottawa et rappelant l'ambassadeur, expulsant l'ambassadeur canadien à Riyad. Marc Pierini, il y a aussi, est-ce que ces remarques, ces prises de position peuvent vraiment faire bouger certains pays? Vous qui avez été ambassadeur dans des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme, on pense notamment à la Syrie et la Turquie.
Alors, je dirais qu'il y a deux choses inquiétantes dans l'évolution actuelle. Moi, j'ai passé 35 ans dans le système diplomatique européen, les pays que vous venez de citer, mais aussi la Tunisie, la Libye, le Maroc. Et j'ai passé une partie de mon temps à, en quelque sorte, exporter et promouvoir le modèle européen de gouvernance et donc le respect des droits de l'homme, la promotion des droits de l'homme. Aujourd'hui, ceux qui m'ont succédé ont un travail infiniment plus compliqué parce que notre système européen se délite de l'intérieur. Regardez le cas de la Hongrie. Une élection démocratique permet aujourd'hui à M. Orban de démanteler la constitution démocratique de son pays et de tailler dans les droits. La liberté d'expression, l'université, la société civile, etc. Et ceci sans grande possibilité, en tout cas jusqu'à présent, pour l'Union européenne de réagir fortement et avec, en quelque sorte, autorité. Et partant de là, nous voyons bien que promouvoir un modèle européen qui lui-même est combattu de l'intérieur devient de plus en plus difficile. Je dirais pas dans des cas extrêmes comme la Syrie, parce que là, il y a 7 ans et demi d'horreur derrière nous, donc ça va pas cesser demain, mais dans d'autres pays, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Et la deuxième chose que je trouve très inquiétante, c'est que la Hongrie, mais aussi d'autres, sont soutenus par la Russie, qui constitue en quelque sorte le contre-modèle. C'est le modèle qui vient en concurrence. On bafoue les droits de l'homme et on le dit.
Le cas de Alexeïev, de ce point de vue-là, est assez éloquent.
Absolument, et bien d'autres cas. Et le pays qui aujourd'hui emboîte le pas le plus ouvertement de la Russie, c'est la Turquie. La Turquie a négocié avec l'Union européenne son adhésion. Était-elle sincère ou pas? C'est un autre débat. Depuis 2005, ça a plutôt bien marché, et j'en étais témoin et acteur, jusqu'en, disons, 2011. Mais à partir du moment où M. Erdogan avait empoché les aspects qui l'intéressaient dans la négociation d'adhésion, c'est-à-dire de remettre l'armée dans ses casernes, il a décidé de changer de tactique. Et donc, aujourd'hui, l'Union européenne et ses principes, et notamment ses principes de gouvernance, sont des obstacles au pouvoir absolu de M. Erdogan, qui ne se prive pas d'attaquer les États européens. Donc, on a les cas individuels, on a les litiges d'État à État, comme vous venez de le mentionner pour Riyad et Ottawa, mais on a aussi quelque chose de plus systémique qui est en train de se développer.
Revenons justement sur ce que vous disiez, Marc Pierini, sur le cas de certains États européens membres de l'Union européenne, la Hongrie, Nicolas Hervieux. Quels mécanismes de l'Union européenne, dans ce cas précis, peuvent être mis en branle pour faire respecter les droits de l'homme?
Alors, il existe beaucoup de procédures au plan interne au sein du droit de l'Union européenne. D'abord, si on pense à l'article 7 du traité sur l'Union européenne, qui permet soit de constater l'existence d'un risque grave de violation des droits de l'homme et des valeurs fondamentales de l'Union, ou un risque de violation de cette nature, ce qui est une procédure mi-diplomatique, mi-politique, mais pas juridictionnelle, donc ça implique une prise de position de la part des États. Cette procédure a été lancée de manière totalement inédite, non pas contre la Hongrie, mais contre la Pologne récemment. Pologne qui, et ce n'est pas un hasard, s'est attaqué au système judiciaire, qui est l'un des piliers de l'État de droit, et ce n'est pas un hasard si cet État et ce gouvernement décident de démanteler le pouvoir judiciaire, seul contre-pouvoir possible. Et puis il existe aussi des procédures juridictionnelles de différentes natures, notamment sous l'impulsion de la Commission européenne, qui peut précisément surveiller les atteintes aux droits et libertés, et aussi solliciter la Cour de justice de l'Union européenne. Cour de justice qui peut aussi réagir récemment, là, dans un arrêt rendu il y a seulement un mois. Elle a finalement, si je résume un contentieux qui est extrêmement technique, elle a finalement estimé que tous les mandats d'arrêt émis par la Pologne pour permettre de rapatrier chez elle des personnes qu'elle souhaite faire condamner ne peuvent pas être exécutés tant que la Pologne ne respecte pas l'indépendance judiciaire. Il y a donc des contrepoids très forts qui peuvent exister, mais ces contrepoids n'existent que si la volonté des États s'applique et si les institutions de l'Union européenne restent extrêmement fermes sur leurs appuis, ce qui n'est évidemment pas forcément le cas actuellement.
On a l'impression aussi que ces réponses sont extrêmement longues et on a dans les traités des possibilités de voir exclure certains des États. On n'en est pas encore là.
On n'en est pas encore là. Il n'y a pas de possibilité d'exclusion des États membres de l'Union européenne. Par contre, il est extrêmement important que les États qui restent libéraux en Europe, et ce sont la majorité, fassent preuve d'une certaine forme de résilience politique. politique. Bien sûr qu'il y a la crise des migrants, la crise économique, un ensemble de pressions qui existent, mais il est extrêmement important que ces États restent un repère moral et qu'ils restent extrêmement fermes sur leurs appuis, ce qui implique aussi
Ce qui fait changer quand même les gouvernements polonais, gouvernement polonais en l'occurrence, puisque c'est l'exemple que vous prenez.
Oui, c'est long, c'est lent, c'est dur, ce sont les relations internationales, évidemment. Mais ça peut faire varier. La Pologne a eu l'occasion de reculer sur ses réformes en matière judiciaire. Et il y a un point qui est assez important. On accuse souvent les droits de l'hommiste d'être des espèces d'idéalistes, déconnectés de la réalité, et notamment des réalités économiques. On nous oppose la nécessité d'un équilibre économique, d'un marché intérieur face aux droits de l'homme. Mais c'est faux. C'est faux parce que parmi les garanties offertes par le droit de l'homme, il y a le droit de propriété, la sécurité juridique. Et l'instabilité juridique est quelque chose qui peut faire fuir les investisseurs. La Pologne en a été consciente. Sur un autre continent, le Zimbabwe, très récemment, où les nouvelles élections suite au renversement du dictateur Mugabe, ces élections ont été organisées par le nouveau pouvoir qui espérait donner un nouveau visage plus serein pour attirer les investisseurs, rebâtir le pays. Ce n'a pas été le cas et ça a été émaillé d'un ensemble de violations des droits de l'homme. Mais ça démontre que les buts économiques peuvent aussi rejoindre les buts des droits de l'homme et que être protecteur des droits de l'homme, ce n'est pas être idéaliste, c'est aussi être profondément pragmatique.
Emmanuel Decaux.
Oui, à un autre niveau, il y a le Conseil de l'Europe avec la Cour européenne des droits de l'homme. Et là, il n'y a plus de marchandage entre l'économie ou la coopération et puis le respect des droits de l'homme. Des individus peuvent faire des recours contre des États. Il y a aussi des recours étatiques. Et les pays dont nous parlions, la Russie, la Turquie, sont membres du Conseil de l'Europe et sont états parties à la Convention européenne des droits de l'homme. Donc il y a un immense contentieux qui pend sur la Turquie depuis les événements des dernières années, avec d'ailleurs la Cour qui a freiner un peu les choses en attendant l'épuisement des voies de recours internes, ce qui montre aussi que tout ce système international ou régional repose sur la force des institutions judiciaires au niveau national et l'activisme des individus, des ONG.
Et si je peux appuyer le propos du professeur Decaux, on parle de l'ex Tensov et actuellement une procédure est pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme. Une mesure provisoire a été prise par la Cour il y a 2 semaines pour forcer la Russie à l'alimenter, ou en tout cas plus exactement non pas l'alimenter mais à lui offrir des soins adéquats. On pourrait penser que la Russie n'a que faire de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est faux parce qu'elle en a conscience de cette pression qui pèse sur elle.
En attendant, l'ex Tensov est sur le point de mourir.
Il est sur le point de mourir. Ça, pour le coup, effectivement, une chose extrêmement dramatique et la Cour européenne des droits de l'homme trouve ses limites ici, mais malgré tout il y a des succès qui peuvent être salués et aujourd'hui même, par exemple, un opposant azerbaïdjanais qui était emprisonné depuis 5 ans pour des motifs politiques, Mamadov, qui a donné lieu à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme condamné en 2014, et puis l'État azerbaïdjanais a traîné les pieds, le comité des ministres du Conseil de l'Europe lui-même a dit que ça n'était pas encore exécuté, que la personne n'était pas libérée, et donc pour la première fois un nouveau recours en manquement a été initié devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ce recours a eu lieu en décembre 2017, la pression s'accroissait et aujourd'hui, cette personne a été libérée. Je ne dis pas qu'il en sera de même pour Alex Tsentsov et à temps, ce que j'espère, mais ça reste quand même un signe positif.
Ce sujet et ce que vous dites, messieurs, fait réagir Marc Pierini au téléphone.
Oui, je dirais que dans votre question qui préside à notre discussion, il y a bien sûr les institutions, les Nations Unies, l'Union Européenne, les gouvernements. Et il y a bien sûr les ONG comme Amnesty et d'autres, mais je crois qu'il faut il faut saisir toutes les occasions. C'est-à-dire, nous constatons avec des pays dans la Méditerranée ou avec la Turquie qu'il y a un degré de cynisme très important à cause des intérêts économiques, bien entendu. Donc, plus grandes entreprises européennes produisent en Turquie, il y a une union douanière, c'est extrêmement profitable, etc. Donc, elles ne vont pas partir de sitôt. Ça amène certains de nos gouvernements qui ont des industries, des banques actives en Turquie, à être plutôt silencieux sur ce qui se passe là. Et il ne faut pas être silencieux. Il faut aussi faire pression à travers les citoyens, mais aussi à travers les organisations patronales européennes, pour que les gouvernements concernés comprennent bien qu'il y a un lien entre le respect des droits de l'homme et la bonne marche de l'économie. La crise de ces derniers jours, la crise financière en Turquie qui est en train de mettre à genoux l'économie turque qui était autrement...
Et la monnaie notamment.
La monnaie qui a perdu 40% de sa valeur depuis le début de l'année, qui a perdu 7% hier en une seule journée. là, le pouvoir est enfermé dans sa logique, conspiration internationale et que sais-je, tout ça c'est très bien, mais ça ne peut pas tenir si on ne revient pas à un degré de respect des droits de l'homme qui soit acceptable. 50 000 prisonniers en Turquie sur des motifs non documentés, la plupart ne sont pas encore inculpés. 150 000 personnes licenciées du secteur public pour des motifs tout aussi mystérieux. Donc, il y a des drames qui se préparent et qui nous concernent aussi, parce que la chute économique de la Turquie aura un impact sur des banques françaises, espagnoles, italiennes très bien connues, et sur des entreprises européennes.
Francis Perrin,
peut-être trois remarques suite à ce qui vient d'être dit. Sur la Turquie, nous avons actuellement le président de la section turque d'Amnesty International qui est en prison. Et la Turquie a été le seul pays, pendant une partie de l'an dernier, qui a eu le privilège, si je puis dire, de détenir, de façon complètement injustifiée, à la fois le président et la directrice générale de la section turque d'Amnesty International. Aucun autre pays n'a fait ça dans toute l'histoire de ce mouvement qui a été créé en 1961. C'est un exemple, mais il est évidemment révélateur.
Conséquence de la vague d'arrestations menée notamment après le coup d'État raté.
Avec des accusations complètement fantaisistes de terrorisme. Sur Oleg Sentsov, Amnesty International a demandé à pouvoir lui rendre visite. Les autorités russes ont refusé, ce qui ne surprendra peut-être pas grand monde autour de cette table et parmi nos auditeurs. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'elles ont dit. Elles ont dit « ce n'est pas nécessaire, parce que son état de santé est stable, je cite, sans dynamique négative. 90 jours de grève de la faim. » Donc, pas de commentaire par rapport à ça. Sur ce que nous avons évoqué sur l'Union européenne, Pologne, Hongrie, bien sûr, il y a des processus qui sont longs, qui sont lents, qui prennent du temps, et c'est normal. Mais tout dépend aussi du moment où on décide de les activer. Donc le processus, il a une certaine lenteur en lui-même, mais si on attend longtemps avant de commencer à le mettre en route, évidemment, ça prend beaucoup plus de temps que nécessaire. Et dans cette affaire, nous avons dit à plusieurs reprises aux autorités européennes, la Commission, le Conseil européen, que face à ce qui se passe en Hongrie et en Pologne, et qui est d'une très grande importance, ces autorités auraient dû, beaucoup plus tôt, activer les mécanismes que vous avez expliqués et qui existent. Donc il y a ces aspects juridiques qui sont importants, qui supposent une volonté politique, qui a été quand même, la Commission européenne finalement a décidé d'aller à la bataille, si je puis dire, heureusement, mais cette volonté politique quand même a fait défaut pendant pas mal de temps. Et puis un autre aspect, c'est sur le plan économique. Il y a quand même une question qu'il faut qu'au niveau européen, on se pose au niveau de l'Union européenne. Des pays qui ne veulent pas s'inscrire dans les valeurs sur lesquelles l'Union européenne a été construite. Est-ce qu'il est logique que ces pays bénéficient d'aides européennes ? Il y a un moment où on ne peut pas avoir, si vous me passez l'expression, le beurre et l'argent du beurre. Faire partie de l'Union européenne, mais ne pas respecter des droits fondamentaux qui sont inscrits dans ces textes depuis l'origine. Donc il y aura aussi à un moment des aspects à évoquer qui ne seront ni politiques ni juridiques, qui seront liés à tout ça, qui seront aussi en termes d'espèces sonnantes et trébuchantes. Et là, c'est peut-être quelque chose que certains dirigeants entendront.
France Culture, du grain à moudre d'été, Antoine Genton. Qui pour défendre les droits de l'homme ? C'est la question que nous posons ce soir dans le grain à moudre d'été. Quatre invités pour y répondre. Francis Perrin, vous venez de l'entendre, vice-président d'Amnesty International. Emmanuel Decaux, professeur émérite à Paris 2 Panthéon-Assas. Nicolas Hervieux, chargé d'enseignement à Sciences Po et à l'Université d'Evry. Et puis au téléphone, Marc Pirini, ancien ambassadeur de l'Union européenne en Turquie. Vous vouliez réagir, Marc Pirini, à ce qui vient d'être dit. Une question aussi, on a parlé de ces organisations internationales pour défendre les droits de l'homme. On a dit un mot de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui est quand même l'organisation majeure hein, et qui peut aussi prendre en charge cette défense des droits de l'homme. Selon vous, Marc Pirini, est-ce que l'ONU, dans ce combat, dans cette lutte, est efficace ?
Alors, tout d'abord, juste un mot pour faire suite à ce que vient de dire M. Perrin. Je pense que dans le cas de la Hongrie, dans le cas des institutions européennes, il est extrêmement important que, vu le fait qu'on a en juin 2019 l'élection au Parlement européen et un peu plus tard le renouvellement des dirigeants du Conseil européen et de la Commission européenne, que les organisations non gouvernementales, Amnesty et les autres, s'impliquent dans ce mouvement politique, dans la campagne électorale, parce que nous allons avoir une défense très forte des intérêts de pays comme la Hongrie. La Hongrie dit, oui, j'ai souscrit à un modèle, oui, j'ai bénéficié d'aide, mais aujourd'hui, je ne suis plus d'accord avec la démocratie libérale. C'était exactement les termes que M. Orban utilise depuis 2 ans, au moins. Je ne suis plus d'accord avec votre modèle. C'est pas comme ça que ça doit marcher. Alors, il faut prendre l'occasion de cette campagne électorale pour les élections européennes et le renouvellement des institutions pour, d'une part, contrecarrer cette logique et, d'autre part, avoir à la tête des institutions, à la place de M. Juncker, à la place de M. Tusk, des gens qui soient fermement investis par les gouvernements, puisqu'ils ne sont pas élus mais désignés, pour remplir le mandat qui est le leur, pour respecter les valeurs. Sur les Nations Unies...
Alors, avant de parler des Nations Unies, juste un petit mot de Francis Perrin, puisque vous l'avez interpellé. Très rapidement, Francis Perrin, est-ce que vous allez vous impliquer davantage que vous avez pu le faire par le passé dans la campagne des élections européennes?
Alors, s'impliquer dans la campagne, oui, évidemment, nous ne sommes pas un mouvement politique. Nous n'allons pas dire il faut voter pour X ou pour Y, mais saisir l'occasion de
peut-être
cette campagne...
Peut-être dire ne pas voter pour X ou Y.
Ça, nous ne le disons pas. Mais par contre, dire la question des droits humains est absolument essentielle. Profiter des déchéances électorales, nous le faisons et nous le ferons, et l'échéance de 2019 est très importante. Rappelons que M. Orban fait la promotion... ouvrez les guillemets, de la démocratie chrétienne illibérale, fermez les guillemets.
Sur l'ONU, je me tourne vers vous encore une fois, Marc Pierini, avant d'entendre sur ce sujet Emmanuel Decaux et Nicolas Hervieux. Est-ce que l'ONU, dans la défense des droits de l'homme, est efficace selon vous?
Alors en théorie, elle est la mieux placée, puisque tous les gouvernements en sont membres, donc personne ne peut échapper à sa juridiction, si je puis dire. L'ONU a aussi le courage de nommer des gens comme Michel Bachelet au poste de commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. La limite, c'est l'inverse, l'image inverse de son avantage, c'est que tout gouvernement est membre et donc doit être entendu. Regardez ce qui se passe depuis 7 ans et demi en Syrie, M. Demistura, etc. On ne peut pas dire que les Nations Unies ont été extraordinairement efficaces. Et je crois que le débat n'est pas de féliciter ou de blâmer l'Organisation des Nations Unies, c'est de faire en sorte qu'elle puisse faire son travail en toute occasion, et de la soutenir, notamment de la part des gouvernements européens.
Emmanuel Decaux.
Oui, alors les...
Vous qui travaillez à l'ONU, je rappelle que vous êtes membre du comité contre les disparitions forcées.
Mais en même temps, c'est comme expert indépendant, donc je ne suis pas responsable de tout ce que
parole libre,
font,
donc.
Font pas les Nations Unies. Mais si on parle de l'Assemblée Générale et du Conseil des Droits de l'Homme, il faut bien penser aussi que ces organes politiques peuvent créer des commissions d'enquête indépendantes, nommer des rapporteurs spéciaux. Et à propos de la Syrie, il y a depuis 7 ans une commission d'enquête présidée par Paulo Pinheiro, un juriste brésilien, qui fait tous les 6 mois des rapports. Alors c'est dérisoire, c'est un constat des violations, mais c'est aussi des archives pour l'avenir. Et actuellement, la saisine de la Cour pénale internationale est bloquée parce qu'il y a un veto russe et accessoirement un veto chinois. Mais en même temps, tous les éléments de preuve sont là. Donc par rapport aux situations du passé où on tournait les yeux sans voir ce qui se passait, il y a une grande différence.
Là, il y a une documentation.
Voilà. Et le Conseil des droits de l'homme, où il n'y a pas de veto, a adopté toute une série de résolutions sur la Syrie avec des mécanismes qui ne vont pas s'arrêter. Alors, ça n'empêche pas qu'il faut des efforts de paix, qu'il y a la dimension humanitaire, mais il y a ce volet pénal qui est très important pour l'avenir, et à titre de dissuasion aussi, pour des situations qui pourraient dégénérer.
On est souvent frappé quand même de l'écart entre les violations des droits de l'homme qui sont commises et puis la réaction qui existe, certes, des Nations Unies. Vous venez d'en donner un exemple, Emmanuel Decaux. Mais quelle est lente cette réaction, et parfois, quel manque de force.
Oui, mais alors là, le piège, c'est que dans les années 90-2000, on a mis en avant l'ingérence humanitaire avec des effets catastrophiques. Aujourd'hui, il y a un concept plus global qui a la responsabilité de protéger, qui a un volet de prévention qui est développé par les Nations Unies, qui me semble plus prudent et plus légitime. Parce que la situation qui a prévalu en Libye, par exemple, a eu des métastases dans toute la région méditerranéenne, dans le Sahel, avec un émiettement du terrorisme et une déstabilisation complète de certains pays. Donc ce n'est pas non plus un résultat souhaitable.
Nicolas Hervieux.
Et puis il faut faire prendre garde à ne pas considérer l'ONU au regard de ce qu'elle n'est pas. Ce n'est pas une organisation surpuissante qui peut dépasser et même contraindre les États, hormis l'hypothèse très particulière du Conseil de sécurité, mais avec des droits de veto pour des puissances telles que la Russie ou la Chine. N'oublions pas que ce soit l'ONU, que ce soit l'Union européenne, que ce soit le Conseil de l'Europe, et je mets à part la Cour européenne des droits de l'homme qui fonctionne sous une logique différente, ce sont les États qui sont là, qui sont derrière. Et si les États vertueux, qui sont encore les promoteurs de la démocratie, non pas illibérale, mais libérale, celle qui protège notre état de droit, ne font pas les efforts nécessaires, ne sont pas assez courageux, le système international restera bloqué. Et des États comme le Canada, alors certes, c'était relativement anecdotique, mais quand même très fort comme geste que de dénoncer l'incarcération d'opposants en Arabie Saoudite, ça reste un acte qui doit se multiplier. Et c'est absolument essentiel parce que les États qui protègent encore l'état de droit et les droits de l'homme, s'ils ne défendent pas ces droits de l'homme sur le plan international, s'ils ne sont pas eux-mêmes exemplaires, ils creusent leur propre tombe.
Parce qu'on pense à la France, là, par exemple.
On pense à la France, tout à fait. La valeur d'exemplarité interne et externe de la France est absolument majeure pour sa crédibilité. On ne peut pas se plaindre d'un côté de la vague de populisme qui déferle sur l'Europe et la crainte que cela engloutisse des gouvernements libéraux et que certains en France puissent prendre le pouvoir et qui ne partagent pas les valeurs de protection des libertés si au quotidien on n'agit pas en ce sens. On ne peut pas être à la fois cynique et tenter de préserver ses petits intérêts tout en laissant de côté les droits de l'homme. La valeur d'exemplarité morale est absolument essentielle.
Francis Perrin, aucun pays n'est totalement exempt des violations des droits de l'homme. C'est ce que disait à la fin du mois de juillet, dans un entretien accordé au Monde, le haut commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, le Jordanien Ziad Raad Al-Hussein. Il pensait forcément à la France. Dans quelle situation les droits de l'homme sont-ils en France aujourd'hui ?
Il est tout à fait juste de dire qu'aucun pays n'est vacciné contre les violations des droits humains. Ce sont des responsabilités humaines et politiques. Alors évidemment, l'ampleur et la gravité des violations des droits humains sont très différentes entre les différents pays. Mais il n'y a pas un pays dont on puisse dire il est totalement exempt, totalement vierge, si je puis dire, de violations des droits humains.
Et en France, est-ce que la situation s'est dégradée au cours des années récentes ?
Nous estimons qu'il y a eu une dégradation dans le cadre de la, évidemment très nécessaire, lutte contre le terrorisme. Nous estimons que certaines évolutions législatives récentes...
Vous pensez à la loi Asile et Immigration ?
Alors, la loi Asile et Immigration, toute récente, bien sûr, effectivement, nous avons combattu, non pas la loi dans son ensemble, mais un certain nombre de dispositions qui nous semblaient contraires au respect des droits des réfugiés, des demandeurs d'asile. Et puis, concernant le terrorisme, après la fin de l'état d'urgence, qui posait un certain nombre de problèmes, la légalisation par une loi de certaines des dispositions de l'état d'urgence nous semble dans certains cas aller trop loin dans le nécessaire et toujours difficile équilibre entre la protection des libertés et évidemment les questions de sécurité, dont personne ne peut dire qu'elles ne sont pas importantes de tout temps, et notamment face à une menace terroriste, bien sûr, avérée. Mais nous estimons que le bon point d'équilibre a été dépassé sur certains points dans la période récente en France, et malheureusement, c'est aussi le cas de nombreux autres pays, y compris de pays démocratiques.
Rapidement, je vois opiner Nicolas Hervieux. Est-ce que la France respecte les règles du droit européen, droit des libertés notamment ?
C'est extrêmement difficile de répondre à cette question puisque les règles aussi la Convention européenne des droits de l'homme sont aussi interprétées à l'aune de cette menace sur la lutte contre le terrorisme. Cependant, le juste équilibre, et j'abonde totalement en ce sens, a été rompu. Il a été rompu lors de l'état d'urgence, il continue de l'être, et il est quand même assez navrant que... il faille, ne serait-ce que si l'on prend ce cas tout de même symptomatique, il faille mener des procédures longues, aller jusque devant le Conseil constitutionnel pour faire reconnaître que le principe de fraternité, la liberté d'aider autrui qui se trouve dans le besoin, indépendamment de son statut d'étranger ou non, soit reconnu et protégé. Et encore, on voit la loi Asile d'immigration qui, sur ce terrain, maintient le délit de solidarité, ne va pas assez loin. Et effectivement, la France, alors qu'elle a ce rôle peut-être fantasmé, mais quand même réel dans l'imaginaire collectif et mondial de patrie des droits de l'homme, si elle-même baisse pavillon, si elle-même déclare l'état d'urgence, qu'est-ce qui empêche la Turquie, qui a juste pris le relais juste après, de déclencher l'état d'urgence? Si on met en place une loi relative au renseignement qui permet la surveillance massive de nos communications numériques en France, qu'est-ce qui va empêcher un État bien moins scrupuleux, lui, d'aller encore plus loin? Et ce rôle-là a été oublié par la France, et à trop vouloir courir derrière le terrorisme, on a oublié l'élément essentiel, et c'est ce que j'expliquais, c'est aussi creuser notre propre tombe de démocratie libérale que d'oublier ses fondamentaux.
Il nous reste encore un peu plus de 5 minutes pour parler de cette question, qui pour défendre les droits de l'homme. Marc Pirini, vous vouliez réagir rapidement?
Oui, tout d'abord, tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. La valeur d'exemple de la démocratie européenne est importante, mais elle est attaquée de multiples côtés. D'abord, vous avez des partis d'extrême droite qui sont au pouvoir en Autriche, qui sont au gouvernement en Belgique, qui sont en embuscade aux Pays-Bas ou en Allemagne. Et puis vous avez des alliances très étroites, très étranges qui se mettent en place. Regardez ce qui se passe sur la migration entre le gouvernement italien, le gouvernement autrichien et un ministre de la CSU en Allemagne.
Trois ministres de l'Intérieur.
Le ministre de l'Intérieur, bavarois, contre les vœux de la chancelière elle-même.
Enfin, c'est le ministre fédéral, hein. Il est élu bavarois, il est de Bavière, mais c'est le ministre fédéral.
Le ministre fédéral de l'Intérieur. Et donc, au sein même de la coalition qui a toujours soutenu la chancelière Merkel, on voit que ça se délite. Alors, au-delà de ça, il faut bien voir que l'Europe est confrontée à une hostilité ouverte de la Russie, ou l'Europe, ou le monde occidental en règle générale, mais l'Union européenne en particulier, et la bataille d'aujourd'hui de la part de la Russie, elle n'est plus pour la suprématie militaire, elle est pour la suprématie idéologique. Et bien entendu, avec des connexions multiples avec un certain nombre de partis politiques en Europe et ailleurs comme en Turquie. On le voit bien aussi dans le déroulement du processus diplomatique. Nous allons avoir, d'ici quelques semaines, une conférence sur la Syrie, à l'initiative de la Russie, avec la Turquie, la France et l'Allemagne. Où sont les États-Unis, où est l'Union européenne? Je ne sais pas s'ils seront présents, invités ou pas. Mais on voit bien qu'il y a toute une série de manœuvres qui convergent pour, en quelque sorte, réduire la force politique des défenseurs de la démocratie libérale.
Au-delà des États, au-delà des organisations internationales, et vous les avez évoqués en début d'émission, je voudrais qu'on parle des ONG, des actions aussi menées par des individus. Les ONG, je me tourne vers vous, Francis Perrin, je rappelle que vous êtes le vice-président d'Amnesty International, vous êtes donc particulièrement bien placé pour en parler. Quel rôle, quel pouvoir ont les ONG dans ce combat contre les droits de l'homme? Est-ce que les ONG saisissent les juridictions dont on parlait avec Nicolas Hervieux et Emmanuel Decaux, par exemple?
Oui, tout à fait. C'est un moyen dans leur panoplie pour essayer d'assurer un meilleur respect des droits humains, des libertés fondamentales à travers le monde. Il y a leur pouvoir de mobilisation de leurs membres, de leurs sympathisants, de leurs militants. Un mouvement comme Amnesty International, ça représente aujourd'hui de l'ordre de 7 millions de personnes dans le monde. Donc c'est une force de frappe, pour prendre un exemple un petit peu facile, qu'on ne peut quand même pas ignorer. Ça ne veut pas dire que cela suffit, loin de là. Nous l'avons vu au cours de cette émission, mais c'est important. Il y a les relations que nous entretenons avec les médias. Il y a tout le travail qui est fait à travers Internet, les réseaux sociaux. Il y a des manifestations, il y a des moyens juridiques qui sont employés.
La caisse de résonance des médias, oui, des réseaux sociaux est importante aussi, hein, on l'évoquait tout à l'heure.
Et puis aussi des pressions sur les acteurs, les gouvernements, les organisations intergouvernementales comme les Nations Unies dont nous venons de parler, les acteurs économiques qui, eux aussi, peuvent être impliqués dans des violations des droits humains, des entreprises. Nous n'avons pas le temps d'évoquer ce sujet, mais voilà, donc il y a un ensemble de choses qui relèvent du travail de recherche et de vérification d'informations, de la dénonciation, de l'information, de la sensibilisation, des pressions sur différents acteurs, de la mobilisation d'un grand grand nombre de personnes et aussi d'outils juridiques qui existent et dont il faut se servir et continuer à se servir encore mieux dans l'avenir.
Sur ce point, Nicolas Hervieux, est-ce qu'il est aisé de lancer des combats juridiques pour les ONG, peut-être pour des individus aussi ?
Pas forcément aisé, mais en tout cas, il y a un élément qui va au-delà de l'observation et de l'influence et du lobbying, il y a l'action contentieuse. La Ligue des droits de l'homme, l'Observatoire international des prisons, la CIMAD, le GISTI, chacun dans leur domaine, droit des détenus, droit des étrangers, droit des libertés, ont fait beaucoup, ne serait-ce que si on regarde les 5 dernières années, pour saisir le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, mener des actions pour faire bouger les choses. Et quand on fait le bilan, ce sont souvent d'ailleurs ces actions contentieuses qui ont vraiment fait bouger les lignes. Et c'est cela ainsi que, au plan individuel, l'optimisme individuel. On est souvent très pessimiste. Je pense que l'optimisme est la clé. Et je vais reprendre les mots d'Henri Leclerc. Comme lui, je crois au matin. Je pense qu'il faut être optimiste face au crépuscule qu'on nous annonce sur les libertés. Il faut être optimiste et continuer à se battre par tous les moyens possibles et imaginables. Parce que si on ne se bat pas, on peut renoncer déjà à notre protection des libertés et à l'état de droit.
Est-ce que vous voyez, Emmanuel Decaux, des motifs d'espoir dans la lutte contre les droits de l'homme? Alors qu'on le disait, hein, dès le début de cette émission, la situation s'est considérablement dégradée autour des derniers mois. On parlait notamment, en préparant l'émission, de Michel Bachelet, hein, qui va prendre la suite du Jordanien Ziad Raad al-Hussein, dont je parlais tout à l'heure, l'ancienne présidente du Chili, torturée dans les années 70. C'est elle qui va défendre les droits de l'homme maintenant aux Nations Unies. Est-ce que c'est un motif d'espoir, cela, pour vous?
On n'a pas beaucoup parlé de l'Amérique latine, mais c'est un pays, un continent qui est très important pour les droits de l'homme. Parce qu'ils ont subi des expériences terribles avec des dictatures militaires, notamment dans le domaine des disparitions forcées. Ils en subissent encore. Et il y a une mobilisation de la population civile ou de familles de victimes avec une grande force, un grand courage, une grande résilience. Et à côté, en relais des organisations internationales comme Amnesty, il y a tout ce réseau d'organisations de terrain qui font un travail d'information, de documentation, avec aussi des artistes engagés. Et chaque fois qu'on voit ces groupes de victimes, on est stimulé, on est encore plus fort pour combattre pour les droits de l'homme. Je crois que c'est vraiment une très belle leçon.
Il y a des combats qui portent leurs fruits, qui fonctionnent, et puis il y a encore des choses à faire, évidemment. Marc Pierini, qu'est-ce que vous avez en tête, vous, pour améliorer la lutte et le combat pour les droits de l'homme?
Alors, je dirais que face à la dégradation de la situation des droits de l'homme dans le monde, et y compris à l'intérieur de l'Europe, développement de ce mauvais
militaire. Je vous arrête, Marc Pierini, la liaison s'est considérablement dégradée. Essayez de bouger légèrement, on va peut-être vous retrouver d'ici la fin de l'émission. Il nous reste très, très peu de temps, une minute à peine. Francis Perrin, est-ce que vous voyez des motifs d'amélioration, encore une fois, de la lutte pour la défense des droits de l'homme, dans l'éducation notamment, peut-être ?
L'éducation, y compris l'éducation justement aux droits humains, qui doit être une partie de l'éducation formelle et informelle, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Les mobilisations dont nous avons parlé, de ce point de vue-là, Internet et les réseaux sociaux sont des outils extrêmement puissants, dont les ONG, les organisations non gouvernementales et d'autres apprennent de mieux en mieux à se servir. Le poids de l'information, de la dénonciation, vous le disiez à juste titre, nous sommes quand même dans un monde où ceux qui commettent les pires violations savent qu'ils ne font pas quelque chose de bien. Et le simple fait de les dénoncer, mais évidemment avec toute la prudence, l'autorité et le sérieux requis, c'est extrêmement important. Nous avons souvent dit à Amnesty que informer, c'est déjà en soi agir.
C'est sur ce mot que nous séparons, c'est la fin de cette émission, sur un motif d'espoir, même si tout ne fonctionne pas dans ce combat pour les droits de l'homme. Il faut encore résister, porter la parole, dénoncer ces violations qui ne cessent de s'aggraver. Merci à tous les quatre, Francis Perrin, vice-président d'Amnesty International, Emmanuel Decaux, professeur émérite à Paris 2, Panthéon Assas, auteur notamment des grands textes internationaux des droits de l'homme, publiés par la Documentation française, Nicolas Hervieux, chargé d'enseignement à Sciences Po et à l'Université d'Evry, et Marc Pierini, ancien ambassadeur de l'Union européenne en Turquie, au téléphone avec nous, chercheur auprès de Carnegie Hall à Bruxelles. Merci à l'équipe du Grain à Moudre, Laila Saïdi, Coppelia Menardi, Isolde Sicard, Imen Mélaz et Marine Lerouge. Réalisation Alexandra Longuet, prise de son Anthony Thomasson. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast et sur franceculture.fr à la page du Grain à Moudre d'été. À demain, 18h15, nous parlerons de l'évolution économique et politique de Cuba. Bonne soirée.